Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous dois d'abord quelques explications sur le titre qui apparaît devant vous, parce qu'il a apparemment semé un peu le trouble au sein du bureau de la Corfi. En fait, je n'ai fait qu'emprunter au vocabulaire rabelaisien quelques termes, sans plus. D'abord, Romy Pet a pu surprendre certains. Je ne sais pas si c'est le début du mot ou la fin. Bon, chacun peut penser que Romy Pet signifie tout simplement être attiré par Rome. Sans plus, les raisons étant fort variées. Ça peut être par l'église et ses pompes, ça peut être par les antiquités de Rome, ça peut être toute autre intention lorsqu'on part à la découverte d'un tel endroit. Ensuite, les folâtreries. Alors, les folâtreries, là aussi, un emprunt à Rabelais. C'est un terme qui peut avoir un caractère un peu léger. C'est une promenade plus ou moins agréable. Pour Rabelais, ça ne sera pas forcément toujours le cas, d'ailleurs. Et puis, Alcofribas-Navier, ce serait vous faire injure, sans doute, que de vous dire que c'est l'anagramme de François Rabelais. C'est sous ce nom que paraît son Pantagruel. On en a la preuve là. Un roi d'Ipsode, restitué à son naturel avec l'effet et prouesse épouvantable composé par M. Alcofribas, avec ou sans Y, selon les endroits où on trouve l'expression. Voilà. Ouais. Vouloir évoquer ce soir devant vous seulement quelques années de la vie de Rabelais est un peu présomptueux de ma part. Cela relève peut-être d'une expression qu'il aurait lui-même appréciée. Vouloir péter, peut-être qu'on a plus haut qu'on a le. Je vous laisse le soin de terminer. Aussi ai-je voulu bien m'entourer, et j'avoue avoir effrontément pillé la biographie de Rabelais de Mireille Huchon. J'avoue avoir fouiné dans l'œuvre précieuse de Richard Cooper, exégète s'il en est. J'avoue avoir lu et relu l'œuvre de Rabelais dans l'édition de la Pléiade de 1955, annotée par Jacques Boulanger. J'avoue m'être promené uniquement pour respirer l'air du temps dans le roman de Rabelais de Michel Ragon. J'avoue avoir maraudé sur Internet chez les rois, princes et papes de son temps. Quelle belle anaphore, n'est-ce pas? Eh bien, j'avoue encore. J'avoue l'avoir emprunté et adapté, bien entendu, à Jean-Louis Bory. Vous vous souvenez, mon village à l'heure allemande, ces débats homériques avec Georges Charansol sur les ondes nationales. Il utilise cette figure dans le prologue de son ouvrage « Les cinq girouettes » qui retrace la vie de Jean-Jacques Régis de Cambacérès, qui a quand même un petit rapport avec l'Italie, puisque ce Cambacérès fut un éphémère duc de Parme. Mais revenons quand même à Rabelais. Quand on ne sait pas bien ni quand, ni où il est né, oui, on s'accorde sur 1494 à la Devinière. Voici la Devinière en Touraine, près de Chinon. Je pense que la plupart d'entre vous a visité ce lieu. Ça n'a rien de spectaculaire. Donc, je disais 1494, mais vous allez voir sur ce document, on peut peut-être distinguer ici 1483. Vous voyez que ça fait quand même une marge assez importante, hein, 1483, 1494. Donc, selon les endroits, selon les sources, la date de naissance de notre Rabelais diffère. Cette photographie a été prise non loin d'ici, certains peut-être connaissent le lieu, c'est à Saint-Y. Il y a la fontaine de Rabelais à Saint-Y. Elle commémore le passage de Rabelais chez son ami Étienne Lorenz, seigneur du lieu. Je suppose qu'il l'avait connu lorsqu'il est passé à Orléans, l'université d'Orléans. quand on ne sait pas non plus où il est mort, Meudon, Paris, oui, on s'accorde sur Paris, bien entendu, il est difficile de vous asséner une vérité. Ce dont on est certain, c'est qu'il a vécu durant approximativement un demi-siècle de bruit et de fureur, de faits inouïs, en même temps que des personnalités hors du commun, des rois, et quels rois ? Louis XII, François Ier, Henri II, Henri VIII, Charles Quint, des papes, Léon X, fils de Laurent le Magnifique, Clément VII, né Jules de Médicis, cousin germain du précédent, Paul III, de son nom Alexandre Farnèse, qui convoque le Concile de Trente en 1545, tous contemporains de Michel-Ange, qu'ils font œuvrer dans la chapelle Sixtine. Des événements extraordinaires. L'émergence de la religion réformée. Le sac de Rome par les lansquenets de Charles Quint, commandé par le connétable de Bourbon en 1527. Voici un lansquenet et une cantinière de son unité, vraisemblablement. C'était une troupe d'élite d'origine allemande. D'ailleurs, l'origine du mot, ça vient du mot land et du mot net, serviteur du pays, tout simplement. L'alliance de François Ier avec le grand turc, Soliman le Magnifique, le siège de Nice, par les troupes franco-turques, après quoi ces mêmes turcs hivernent à Toulon en 1544, le schisme anglican, après que Clément VII eut refusé le divorce d'Henri VIII d'avec Catherine d'Aragon. L'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, par laquelle François Ier impose le français dans l'administration et la juridiction. Les découvertes du Nouveau Monde. Voilà, j'en passe. Et Rabelais, Louvois dans tout cela, lui, le religieux, régulier d'abord, puis séculier, ce qui lui autorisera quelques relations avec le pape, sinon directes, au moins épistolaires. Il est Calvin. Voici le personnage. Mais est l'ami de Dolé. Voilà, qui n'est pas très très beau sur ce document. J'ai trouvé d'ailleurs des représentations du personnage encore plus laide. Étienne Dolé, apparemment, n'était pas vraiment pas beau. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'homme, bien entendu. Dolé qui, comme chacun sait, mourra sur le bûcher. Rabelais évolue avec aisance, presque désinvolture, au sein d'un monde en incomplet bouleversement. Il est l'homme de l'art, religieux, un des grands médecins de son temps, alchimiste, charlatan aux yeux de certains, humaniste, compagnon de route entre autres de Guillaume Budé, que voici, que voilà, le portrait célèbre de Clouet, qui se trouve au Metropolitan Museum of Art. Il est passionné d'antiquité et d'art, d'où son attirance pour l'Italie et Rome en particulier. Homme d'amitié, Étienne Dolé en conviendrait aisément, ainsi que Clément Marot. Michel Ragon, dit de Marot, très laid, avec une barbe de bouc. Marot ressemblait exactement à l'image que les Grecs se faisaient des satyres. À l'époque latine. Homme de réseau, sévit aux côtés des frères du Bellay en témoigne. Écrivain, inventant une langue très artificielle, étrangère à l'usage commun, inouï. Son invention d'un illustre français est à l'image de celle de l'illustre italien, mise en scène par Dante dans le De vulgari eloquentia. Et Chateaubriand de dire: Dante a engendré l'Italie moderne, Rabelais a créé les lettres françaises. Montaigne, La Fontaine, Molière viennent de sa descendance. Dans son dictionnaire historique de 1683, un certain Louis Moreri, dont je ne sais rien de plus, lui reconnaît la maîtrise de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand, du latin, du grec, de l'hébreu, et affirme qu'en outre, il était grammairien, poète, philosophe, médecin, jurisconsulte et astronome. Un véritable panépistémon, l'homme qui sait tout. Moine franciscain à Fontenay-le-Comte. J'ai là une image d'un... Non ? C'est Clément Marot que j'avais oublié de vous montrer. Et il n'est pas très très beau, mais enfin, ça n'est pas si méchant que le portrait qu'en fait Ragon. Voilà un cloître, le cloître des Tiercelettes de Fontenay-le-Comte. Je ne sais si notre Rabelais l'a connu. Vers 1520, il devient moine bénédictin à Maillezais. Voici les ruines de l'abbaye de Maillezais. Cette abbaye était détruite à la Révolution, comme beaucoup d'autres, vendue comme bien national, et les pierres utilisées pour construire les maisons d'alentour. En 1525, sous la houlette, tout cela, de Geoffroy d'Estissac, un personnage qui aura beaucoup d'importance pour lui. C'est lui qui a mis Rabelais sur la piste de ce qu'il allait devenir. Ce Geoffroy d'Estissac, j'aurais aimé vous en montrer un portrait, Claude Viviani, que je remercie et que je ne remercierai jamais assez, et moi, nous avons cherché, en vain. Alors de Guerlas, j'ai envoyé un courriel à l'abbaye du Ligugé, au sud de Poitiers, dont Geoffroy d'Estissac avait été le père abbé. Et on m'a répondu, je ne m'y attendais pas, je ne sais si c'est le père abbé ou un abbé qui m'a répondu, un certain Lucien Jean Bord, qui a eu la très grande gentillesse de me répondre, mais qui m'a dit qu'à sa connaissance, il n'existait aucun portrait de Geoffroy d'Estissac. Donc, nous nous passerons de ce personnage. Rabelais prend l'habit de prêtre séculier en 1528. Il n'en voyage pas moins. Il visite les universités de Bordeaux, Toulouse, Bourges, et sur son chemin vers Paris, Orléans, bien entendu, avant d'arriver, bien entendu, à Paris. En 1530, il s'inscrit à l'université de Montpellier. Il y donne des cours, excusez du peu, sur Hippocrate et Galien, et devient bachelier le 1er novembre de la même année. C'est curieux, c'est très différent de ce qui se passe aujourd'hui. On est bachelier d'abord, on poursuit des études supérieures après. Là, c'est totalement différent. Au printemps de 1532, il s'installe à Lyon, médecin à l'Hôtel Dieu, où il aurait reçu 40 livres par an pour donner des soins à 200 malades, et où il aurait, on utilise le conditionnel, où il aurait pratiqué sur les cadavres de 3 condamnés à mort la première dissection publique. Peut-être. Paraît alors son Pantagruel, sous la signature, on l'a vu tout à l'heure, d'Alcofribas Nazier. En 1534, sorti de Gargantua. Mais, entre ces deux parutions, c'est son premier voyage en Italie. De février à avril 1534, approximativement, en compagnie de Jean du Bellay. Le voici, le voilà. L'auteur de ce portrait est inconnu. Ça a été puisé dans la revue historique et archéologique du Maine, datant de 1894. C'est tout ce que je puis dire sur ce portrait. On connaît évidemment le poète Joachim du Bellay. On connaît moins Jean du Bellay et son frère Guillaume. Sachez qu'il y a encore 2 frères du Bellay. Mais c'est un personnage, vous l'allez voir, peu ordinaire. Il est évêque de Bayonne en 1526. Ambassadeur auprès d'Henri VIII d'Angleterre, en 1527. Voilà le beau, le bel Henri VIII. Ce serait un portrait de Hans Holbein le Jeune. Je dis je serais, hein, serais. Hein, je n'ai pas de certitude. Notre du Bellay, devenu évêque de Paris, retourne auprès d'Henri VIII en 1533, en un moment crucial. Véritable séisme au sein de l'Église, qu'Henri VIII menace d'un schisme si le pape Clément VII lui refuse l'annulation de son mariage. Voilà Clément VII, pour une fois un pape à l'air un peu jeune. Il faut quand même l'en marquer. C'est un portrait de Sebastiano del Piombo qui se trouve au Museo di Capodimonte de Naples. Vous voyez mieux ? Donc le pape Clément VII refuse à Henri VIII l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. Voici cette belle et douce personne. Ce serait un portrait d'un certain Michael Cito. Je n'en sais là encore pas plus à son sujet. Catherine d'Aragon, qui est la mère de Marie Tudor, comme chacun sait. Et tout ça afin qu'il épousât, bien entendu, une nouvelle femme parmi toutes celles qu'il aura, Anne Boleyn. La voici, la voilà. Ce serait une copie, l'original, je ne sais de qui il est, une copie qui daterait de 1534. Jean du Bellay obtint du roi, Henri VIII, la promesse de ne pas rompre avec la cour de Rome, sous condition et qu'elle lui donna le temps de se défendre par procureur. Le procureur étant à l'époque un ecclésiastique qui défend les intérêts de quiconque s'adressera à lui. C'est à cette occasion que du Bellay fut envoyé à Rome par François Ier pour demander au pape un délai. Voici François Ier dans le portrait très célèbre du Titien, je ne me trompe pas, et il me semble me souvenir.
Le portrait du Titien, c'est un portrait de profil.
De profil. Parce que sur ce que j'ai sur mes sources, là, on l'attribue aussi au Titien. Non. Bon, merci de m'avoir corrigé. Enfin, notre François Ier a fière allure quand même. Rabelais fut donc du voyage. On sait ce qu'il advint des ambassades de du Bellay. L'influence des agents de Charles Quint fut sans doute déterminante auprès du pape. Ainsi naquit l'Église d'Angleterre, j'en dirai encore deux mots tout à l'heure. L'Italie allait à Rome, Rabelais en rêvait. Voilà ce qu'en dit Myriel Huchon. Si vous me permettez. Ce n'est pas bien commode. Rabelais en rêvait. Voir Rome, souhait de tout humaniste en cette première moitié du siècle, c'est Jean du Bellay, à l'époque évêque de Paris, qui lui permet de l'exaucer. Aucune nostalgie alors chez Rabelais, devant ce que le poète Joachim du Bellay, le neveu de Jean, appellera le tombeau du monde, devant ces vieux palais, ces vieux arcs, ces vieux murs, ces vieux monuments, ces antiquités que chacun va pillant, spectacle déploré dans les antiquités de Rome. Mais une furieuse passion de ces antiquailles qu'il partage avec son protecteur Jean du Bellay. Un regret, toutefois, découvrir la basilique Saint-Pierre dans un état de désolation, sans coupole, la première pierre ayant été posée en 1506, mais les travaux s'étant arrêtés à la mort de Raphaël. Mort qui se situe en 1520. À propos de ces ruines, Rabelais lui-même le complète dans son quart livre. Si vous permettez, je vais lire encore quelques-unes de ces lignes. est-il que dans la semi-obscurité, je les retrouve. Voyant la misère et calamité du peuple, plus avant entrer ne voulûmes, seulement pour prendre de l'eau bénite et à Dieu nous recommander. Entrâmes dedans une petite chapelle près le Havre, ruinée, désolée et découverte, comme est à Rome le temple de Saint-Pierre. Rabelais va donc séjourner à Rome entre février et avril 1534. Après 15 jours d'un terrible voyage, pas forcément pour lui, mais en tout cas pour Jean du Bellay, qui, souffrant d'une sciatique, traverse les Alpes porté sur une litière, donc à Dodone. Par Suse, Modène et Bologne, ils arrivent à Rome, où ils sont logés chez l'évêque de Faenza, Rodolfo Pio da Carpa. De ces moments privilégiés pour un humaniste, il reste un précieux témoignage. La lettre dédicace de Rabelais à Jean du Bellay du 31 août 1534, en tête de la Topographia Anticae Romae de Marliani, que Rabelais va éditer chez son ami Sébastien Griff à Lyon à son retour en France. Voilà la couverture de cet ouvrage. En fait, Rabelais avait l'intention d'écrire un tel ouvrage, mais Mariani le devance. Voilà ce qu'il en dit dans la fameuse dédicace à Jean du Bellay. Je vais essayer de retrouver ça. Voilà, j'y arrive. J'abordais la topographie de Rome d'accord avec Nicolas Leroy et Claude Chapuis, vos domestiques. Je rappelle qu'il s'adresse à Jean du Bellay. Jeunes gens très honnêtes et fort studieux d'antiquité, voici que le livre de Mariani fut commencé à composer pour vous, dont j'éprouvais une joie pareille à celle que fait éprouver Junon Lucine lorsqu'elle apparaît à celle qui accouche difficilement. En effet, j'avais conçu le même enfant, mais je souffrais pour le mettre au monde, jusqu'au plus profond de mon esprit. Car, quoique le plan ne soit pas difficile à concevoir, il ne me semblait pas aisé de digérer une masse informe avec clarté, propriété et ordre. Moi, selon l'invention de Thalès de Milet, ayant élevé un cadran solaire, je partageais la ville en quartiers à l'aide d'une ligne transversale tirée d'Orient en Occident et du Midi au Nord, et je les dessinais pour les yeux. Lui, il a mieux aimé prendre son graphique des montagnes. Ce procédé, je suis bien loin de le lui reprocher. Je le félicite vivement, au contraire, d'avoir fait ce que je m'efforçais de faire. À lui seul, en effet, il a fourni plus qu'on aurait pu attendre de tous les érudits de notre siècle. Il a si bien justifié sa thèse, si bien traité le sujet à mon sentiment, que je ne crains pas de proclamer que je lui dois autant à moi seul que tous les curieux des bonnes lettres. C'est flatteur. En fait, comme il le dit, il avait l'intention d'écrire cet ouvrage. Il rapportera de son voyage à Rome un exemplaire de l'œuvre de Mariani et, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fera éditer chez son ami à Lyon. Toutefois, la dédicace qu'il en fait à du Bellay vaut surtout par l'expression d'une extraordinaire courtisanerie à son égard. Je vais vous laisser juger vous-même, ça paraîtra peut-être un peu long, mais à mon avis, cela vaut son pesant, pour parler un peu vulgairement. En effet, ce que je souhaitais le plus depuis que j'ai eu quelques sens, des belles lettres, c'est-à-dire parcourir l'Italie et visiter Rome, capitale du monde, vous me l'avez procuré avec une merveilleuse bienveillance. Et vous avez permis, non seulement que je visitasse l'Italie, ce qui en soi était souhaitable, mais encore que ce fût avec vous, l'homme le plus docte qui soit sous le ciel et le plus humain, ce qui est d'un prix tel que je ne sais encore l'estimer. Certainement, c'est plus pour moi de vous avoir vu à Rome que d'avoir vu Rome même. Avoir été à Rome, c'est le sort qu'on peut avoir comme tous ceux qui ne sont ni infirmes ni pris dans tous leurs membres. Mais vous avoir à Rome, fleuri des merveilleuses congratulations qu'on vous y faisait, c'est un plaisir. Avoir été mêlé aux affaires au temps où vous étiez chargé de cette noble ambassade pour laquelle notre invincible roi François vous avait envoyé à Rome, c'est une gloire. Avoir été près de vous quand vous portiez la parole, dans le plus saint et le plus agréable conseil de tout l'univers, sur les affaires du monarque de la Grande-Bretagne, c'est un bonheur. Quel plaisir nous pénétrait, de quelle joie nous étions envahis, quelle félicité nous sentions lorsque nous vous contemplions en train de parler, le souverain pontife Clément étonné, les cardinaux pleins d'admiration et tous applaudissants. Quels aiguillons vous avez laissés dans l'esprit de ceux qui vous ont entendu avec délectation. Quelle finesse dans les sentences, quelle subtilité dans la discussion, quelle majesté dans les réponses, quelle vigueur dans la réfutation, quelle liberté dans la parole. Votre diction était si pure que dans le Latium, vous sembliez seul à parler latin, si grave aussi qu'elle joignait la civilité et l'agrément à une singulière dignité. J'ai remarqué, en vérité, que tout ce qui se trouvait là de gens de goût fin vous appelait la fleur choisie des Gaules et prétendait que de mémoire d'homme, il n'y avait eu qu'un seul évêque de Paris capable de s'exprimer avec liberté, et que le roi François agissait bellement en appelant à ses conseils les Dubellay, plus illustres par la gloire, plus graves par l'autorité, plus polis par leur culture que personne en France. Je m'arrête là, mais cela suffit amplement. À ce passage, oui, plein de flagranderie, passage de, pour parler encore un peu à la manière de Rabelais, de brosse à reluire. À Rome, Rabelais a aussi l'opportunité de connaître les académies, ces cercles littéraires ou sociétés savantes. L'un des membres importants de la célèbre Academia della Virtù, qui se réunissait autour du cardinal Ippolito de' Medici, était le secrétaire vénitien du cardinal Gianfrancesco. Non, il s'agissait, je me reprends, je vous prie de m'excuser. Donc, le personnage important qui se réunissait autour du cardinal Ippolito de' Medici était le secrétaire de ce cardinal. Et ce secrétaire se nommait Gianfrancesco Valerio, très lié avec des gens très connus, comme vous allez voir. Castiglione, Bembo, l'Arioste, l'Aretin, que peut-être Rabelais a rencontré. Voici l'Aretin, et là je crois, ne pas me tromper, qu'il est bien du Titien. Car il me semble me souvenir que nous l'avions vu au Luxembourg, certains d'entre vous, et moi. Il aida du Bellay dans ses fouilles lors de ce premier voyage romain. En même temps, il était agent secret de l'ambassadeur français à Venise, Guillaume Pélissier. Mais, hélas pour lui, il finira pendu sur la place Saint-Marc, convaincu d'espionnage pour la France par les autorités vénitiennes. Lors de ce premier voyage, Rabelais a dû également fréquenter Philibert Delorme. Oui, Philibert Delorme était à Rome aussi. Le voici. C'est une image là. Philibert Delorme, je cherche. C'est d'après un traité d'architecture, d'après son traité d'architecture, et l'auteur m'en est totalement inconnu. Philibert Delorme, qui bien entendu, à Rome, était en quête d'antiquité. Je ne vous rappelle pas qu'il fut le bâtisseur du château d'Anet, cadeau d'Henri II à Diane de Poitiers, des Tuileries, entre autres. Après ce premier intermède romain, Rabelais rentre en France, reprend ses fonctions à l'État de Dieu, de Lyon, comme si de rien n'était. Mais il n'a jamais cessé d'écrire. Son Gargantua est publié. On ne sait si c'est fin 1534 ou début 1535. Rien ne permet de le savoir avec précision. Comment fait-il? Nul ne le sait. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas le temps de se poser. Courant 1535, il repart à Rome. Pourquoi? Eh bien, c'est encore à cause de Jean du Bellay, qui, le 22 mai de cette année-là, a été élevé au cardinalat par le nouveau pape, Paul III. Voilà, il est moins fringant que Clément VII, que nous avons vu tout à l'heure. Alors ce Paul III serait attribué, alors là je prends encore des précautions, encore au Titien, je suis très prudent, et il serait lui aussi, comme Clément VII tout à l'heure, au Museo di Capodimonte de Naples. Donc il est appelé, Jean du Bellay est appelé à Rome pour recevoir le chapeau des mains de ce Paul III, je vous le rappelle, qui est né Alexandre Farnèse. Les impériaux n'étaient évidemment pas d'accord, mais le pape est passé outre. Pour Rabelais, il s'agit essentiellement d'un voyage d'affaires, les siennes et celles de Geoffroy d'Estissac, dont j'ai déjà évoqué le rôle tout à l'heure. Tous deux se connaissent et s'apprécient, je le reprécise, depuis Maizet, dont Geoffroy d'Estissac était l'évêque. Sans doute avait-il fait alors de Rabelais son secrétaire et peut-être également le précepteur de son neveu et pupille, Louis d'Estissac. Tous les chercheurs ne sont pas forcément d'accord à ce sujet. Rabelais fait donc partie de la suite de Jean du Bellay, qui, parti de Saint-Quentin le 27 juin, passe à Paris, puis à Lyon, où le rejoignent sans doute Guillaume Pélissier, l'ambassadeur à Venise, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Rabelais. Par Ferrare, puis Pesaro, le cardinal a embarqué sur le Pô, puis sur l'Adriatique, et c'est par la Via Flaminia ensuite qu'il arrivera à Rome le 1er août. Alors on peut avoir une idée du voyage. On voit ici Rimini en cône et Pesaro se trouve entre les deux, vraisemblablement à cette interjection. Donc il a voyagé sur le Pô, plus au nord, puis sur l'Adriatique. Il ne devait être encore pas en très bon état, en très bonne santé à l'époque. Rabelais n'habite sans doute pas le palais des Soderini près de Tors en Guinée où est logé du Bellay. Dans ses lettres à Estissac, il dit avoir loué des meubles, sans doute pour aménager une chambre à ses frais. Certains ont supposé qu'il était médecin de du Bellay, ce qui n'était pas impossible, mais c'est à Estissac qu'il demande des fonds. Au service du cardinal, il eût certainement été rémunéré. Voilà ce qu'il en dit dans sa troisième lettre à l'évêque de Maillezais, envoyé de Rome le 15 février 1536. Je vais essayer de vous retrouver ça. Alors, je suis perdu. Je n'y vois plus rien. Pardon. Je ne suis pas à la bonne page, et pour cause. Voilà. Mais je suis contraint de recourir encore à vos aumônes, car les 30 écus qu'il vous plut de me faire livrer ici sont quasi venus à leur fin. Et s'il n'en est rien dispendu en méchanceté, ni pour ma bouche, car je bois et mange ordinairement chez monsieur le cardinal du Bellay ou monsieur de Mâcon. Mais en ces petites barbouilleries de dépêches et louages de meubles de chambre et entretenements d'habillement s'en va beaucoup d'argent. Encore que je m'y gouverne tant chichement qu'il m'est possible. Si votre plaisir est de me envoyer quelques lettres de change, J'espère n'en user qu'à votre service et n'en être ingrat. Au reste, je vois en cette ville 1000 petites mirellifiques à bon marché qu'on apporte de Chypre, de Candie et Constantinople. Si bon vous semble, je vous en enverrai ce que mieux je verrai duisible, tant à vous qu'à ma petite dame d'Estissac. Le port d'ici à Lyon n'en coûtera rien. On note qu'on évoque une dame d'Estissac. Est-ce que Monseigneur l'évêque de Malezère est une épouse? Je ne fais pas d'autres commentaires. Mais à l'époque, ça ne serait pas surprenant. Quels sont les centres d'intérêt de Rabelais qu'il relate aux destinataires de ses lettres? D'abord, la vie politique. Il témoigne, à Florence déjà, d'une grande attirance pour les différends entre les deux partis rivaux. Les tenants d'une Florence libre et républicaine et les partisans des Médicis, le pape en premier lieu et Charles Quint, dont le désir de marier sa fille naturelle Marguerite à Alexandre de Médicis, se concrétisera fin février 1536. Ferrare l'intéresse tout autant. Les différends, là encore, d'Hercule d'Est avec le pape, qui lui conteste la possession de ses états, saute au premier plan de l'actualité. Une sentence impériale lui ordonnant de verser au pape, entre autres, 100 000 ducats pour l'investiture de ses états, ne sera appliquée en fait qu'en 1539, après maintes péripéties. Les problèmes familiaux des Est ne peuvent pas non plus laisser Rabelais indifférent. Le duc, je pense que le voici, voilà, il s'agit d'Hercule II. Alors là, je pense que c'est un portrait de Dosso Rossi, qui était peintre de la cour de Ferrare. Mais je suis encore très prudent. J'en reviens. Voilà, le duc tentait, le duc Hercule II, tentait depuis longtemps de se débarrasser de la maisonnée française de sa femme. Beaucoup d'entre nous la connaissons. La connaissent, pardon. Il s'agit de René de France. Nous avons visité pour certains ses appartements dans le château de Ferrare. En premier lieu de ces dames importunes de la cour de René de France se trouvait une dame, Madame de Soubise, ses deux filles et de nombreuses dames d'honneur qui, paraît-il, se moquaient ouvertement du duc Hercule II. Et évidemment, ça ne plaisait guère. François Ier consentit au rappel de la mère, Madame de Soubise, après que René eut accouché de son troisième enfant. Le passage de Du Bellay à Ferrare, avec Rabelais, a sans doute apaisé momentanément la situation, mais pas forcément en faveur de René, dont les sympathies envers la réforme et son accueil de Clément Marot ne sont évidemment pas bien en cours. La réputation sulfureuse de Marot n'est sans doute pas usurpée et sans doute Hercule II avait lieu de s'inquiéter. Ne dit-on pas, certaines mauvaises langues, qu'il aurait défloré Clément Marot, Louise l'abbé alors qu'elle n'avait que 12 ou 13 ans. Ne serait-ce pas ce qu'elle évoque dans un de ses poèmes en parlant de ce brûlant amour de 13 étés? Peut-être. À Rome, l'annonce de la venue de l'empereur agite la ville. Il s'agit bien entendu de Charles Quint. Que voici, que voilà. Alors, là, j'ai cru comprendre que c'était un Rubens d'après un Titien. Peut-être suis-je dans la plus complète erreur. Je pense que le portrait, en tout cas, est très flatteur. Dans les faits, Charles Quint devait être, lui, très certainement, beaucoup plus laid que cela. Le souvenir du sac de Rome de 1527 est encore tout frais, hein, les lansquenets que j'ai évoqués tout à l'heure. La venue de Charles Quint, prévue en février, telle que le dit Rabelais dans sa deuxième lettre toujours à Geoffroy d'Estissac, je lis « Ils ont en fait que le dit empereur a remis sa venue en Rome jusqu'à la fin de février, venue qui d'ailleurs n'aura finalement lieu qu'en avril. Mais que d'agitation, que de problèmes, logement, vivres pour les troupes impériales, le conseil municipal est peu disposé à payer, aménagement de la ville, un parcours de près de 5 km doit être dégagé. Il faut donc exproprier, démolir, quantité de maisons, voire des églises. Un décor provisoire, trompe-l'œil, arc, colonnade, sera érigé et disparaîtra sitôt l'empereur parti. Voilà cet itinéraire tel que le détaille Richard Cooper. Je lis, j'essaie. La première section du parcours suit la via di Porta San Sebastiano jusqu'à Porta Capena, tourne vers le nord, le long de la nouvelle via di San Gregorio, passant devant le Septisonium, entre les ruines du Palatin à gauche et celles du Caelius à droite, puis sous l'arc de Constantin, le voici, et les églises San Cosma e Damian, San Lorenzo e Miranda et San Adriano, avant de tourner à droite devant l'arc de Septimsévère et la statue de Marforio pour emprunter une nouvelle rue qui débouchait sur la Piazza San Marco. Ensuite, l'empereur devait emprunter la Via Papale, somptueusement décorée, passant devant les palais della Valle et Massimo, avant de tourner à gauche, traverser le Campo dei Fiori et suivre les vies del Pellegrino, dei Bianchi Vecchi et di Banco San Spirito jusqu'au Ponte San Angelo et le Borgo. Alors, on est passé devant le Colisée et sur le pont San Angelo. Je suis un peu perdu dans tous mes ouvrages. Pardon. Où en suis-je ? Et le pape, bien entendu, pour payer tous ses travaux, et comme toujours, de prélever l'impôt aux grandes dames de sa cour et du peuple romain. Rabelais l'écrit toujours dans sa troisième lettre à Geoffroy d'Estissac, toujours datée du 15 février 1536. J'essaie d'en retrouver ces quelques passages. C'est pitié de voir les ruines des églises, palais et maisons que le pape a fait démolir et abattre pour lui dresser et aplaner le chemin. Et pour les frais du reste à taxer et lever argent sur le collège de messieurs les cardinaux, les officiers courtisans, les artisans de la ville, jusque aux aquarolles. Les aquarolles devant être les porteurs d'eau. Donc, on le voit, tout le monde était mis à contribution pour préparer la venue de Charles Quint. Autre préoccupation du moment, la menace turque. Soliman II, dit le Magnifique, le voici, bien beau. Là, je ne sais pas qui est le portrait de ce portrait. Je ne m'avance pas. L'inquiétude de son alliance avec François Ier, ou plutôt son alliance avec François Ier, a semé le trouble dans toute l'Europe. Mais la défaite de son arrière-garde face aux Perses redonne espoir sans empêcher que la peur subsiste. C'est une bataille qui a lieu en Azerbaïdjan, bataille de Koy, près d'une ville qui s'appelle Tauris. Assez difficile à situer sur une carte. Chacun sait que cette défaite toute provisoire n'empêchera pas Soliman le Magnifique d'arriver aux portes de Vienne. S'ajoutent à cela tous les problèmes religieux. En premier, la situation anglaise que j'ai évoquée déjà. De toujours, Jean du Bellay et les Français ont prôné la conciliation. Cependant, en décembre 1535, le pape se résout à expédier sa bulle par laquelle le roi serait excommunié et destitué de son royaume, qui reviendrait à celui qui réussirait à s'en emparer. Délai de 2 mois fut cependant accordé à Henri VIII. L'annonce de la mort de Catherine d'Aragon inclina Paul III à retirer pour l'heure sa bulle. Paul III avait succédé à Clément VII, comme chacun sait. Les Anglais n'en devenaient pas moins des papes figues, des maudits de Dieu. Plus grave encore, l'influence grandissante des protestants. Les du Bellay étaient partisans d'une politique d'ouverture et de dialogue. Rabelais décrit l'arrivée à Rome du cardinal de Trente, Bernardo Claes, qui attisa le débat sur la réforme de l'Église par un futur concile auquel Paul III ne semblait pas opposé. Cependant, les abus de l'Église, il y en avait déjà, semble-t-il, du pouvoir temporel, du cumul, de l'absentéisme, font douter ce cardinal Bernardo Claes de la sincérité du pape. Chacun sait qu'il faudra attendre 10 ans et aller à 30 pour que s'ouvre enfin le concile. Si ce n'était que cela, l'atmosphère est à la guerre. François Ier, il fait fi de Pavie, ça n'était pourtant que 10 ans plus tôt. François Ier rêve de reconquérir le Milanais et de rétablir l'ascendant français en Gaule cisalpine. Des renforts impériaux arrivent dans ce même Milanais. Charles Quint pense se rendre à Gênes, où arrive Andrea Doria. C'est l'empereur qui prendra les devants en pénétrant en Provence fin 1535. La guerre est véritablement ouverte. Ainsi Rabelais, tel un reporter moderne, relate ses faits, ce qu'il a vu, par exemple les préparatifs pour l'entrée de Charles Quint à Rome, ou les arrivées dans la ville des ducs de Florence ou de Ferrare, ce qu'il a lu dans les bulletins ou à Vizzi. Les renseignements qu'il fournit à d'Estissac ne sont pas pour autant toujours exacts. Il serait trop long d'en donner des exemples. Et quelque approximatives que soient les nouvelles que rapporte Rabelais, ces lettres n'en reflètent pas moins les questions d'actualité qui préoccupent les Romains en cet hiver 1535-1536. Ces trois lettres à d'Estissac attestent en tout cas d'un Rabelais partisan. Ses réflexions politiques cadrent parfaitement avec celles des frères du Bellay. Ces railleries aux dépens des Romains, crédules, trop crédules, qui ajoutent foi aux prophéties de bonheur pour l'empereur et de malheur pour la France, trouvent écho chez les du Bellay. Aussi, Rabelais rejette-t-il en bloc les prognostications publiées à Rome en 1535, malgré l'exactitude de certaines prophéties antérieures. Pavie, le sac de Rome, ou encore la crue du Tibre de 1530. Il ironise sur le défilé des ambassadeurs italiens à Naples, faisant leur cour à l'empereur, auquel il reconnaît pourtant une grande finesse et habileté. Plus terre à terre, il va faire œuvre de botaniste, sans doute à la demande toujours de M. d'Estissac. Là, son enthousiasme romipète est considérablement amoindri. Point de découverte sensationnelle. Quelques graines, quelques salades, c'est bien un peu. Voilà ce qu'il dit toujours dans sa troisième lettre à son mentor. Je vais essayer de vous retrouver ça. Si je ne m'y perds pas. Monseigneur, touchant les graines que vous ai envoyées, je vous puis bien assurer que ce sont ceux des meilleurs de Naples et desquels le Saint-Père fait semer en son jardin secret du Belvédère. D'autres sortes de salades ne ont-ils pas de ça fort de Nasidore et d'Arousse, mais celles de Ligugé me semblent bien aussi bonnes et quelque peu plus douces et aimables à l'estomac, mêmement de votre personne, car celles de Naples me semble trop ardente et trop dure. Au regard de la saison et semaille, il faudra avertir vos jardiniers qu'ils ne les sèment du tout si tôt comme on fait par de ça, car le climat n'y est pas tant avancé en chaleur comme ici. Ils ne pourront faillir de semer vos salades deux fois l'an. Savoie est en carême et en novembre, et les cardes, ils pourront semer en août et septembre, les melons, citrouilles et autres en mars, et les armées certains jours de joncs et fumiers légers, et non du tout pourris, quand ils se douteraient, pardon, de geler. On vend bien ici encore d'autres graines, comme d'œillets d'Alexandrie, de violes matronales, d'une herbe dont ils tiennent en été leur chambre fraîche, qu'ils appellent belvédère, et autres de médecine, mais ce serait plus pour Madame d'Estissac. S'il vous plaît, de tout, je vous envoierai et n'y ferai faute. Cela montre combien Rabelais peut être sérieux et réfléchi dans ses propos, suivant attentivement la situation diplomatique européenne, s'intéressant à tout et à rien dans un style très éloigné, semble-t-il, de celui qu'il utilise dans son œuvre romanesque. Fidèle à son habitude, il invente cependant quelques mots, tels cardinalicule, pour désigner, il est vrai, le jeune Alessandro Farnèse, qui accède à la poupre à 14 ans. Ou encore, mirélifique, ce mot je l'ai déjà utilisé tout à l'heure, pour qualifier les bibelots vendus par les marchands romains. Le sérieux reprend le dessus lorsqu'il s'agit de traiter ses affaires personnelles et de remettre en ordre sa situation vis-à-vis de l'Église. 5 documents attestent de ce processus. 2 suppliques de Rabelais au pape. 1 bref de Paul III à Rabelais. 1 acte de réception de Rabelais par Jean du Bellay comme moine de Saint-Maur. Et procuration donnée par Rabelais pour la sécularisation encore de Saint-Maur. Première supplique. Elle date du 10 décembre 1535. Rabelais demande à Paul III l'absolution de son apostasie, à savoir l'abandon sans permission du statut de moine pour celui de prêtre séculier. Le 17 janvier 1536, Rabelais présente en seconde supplique sa supplicatio pro apostasia. Il rappelle ses premiers vœux et y ajoute une demande d'autorisation de posséder des bénéfices et d'exercer la médecine. Paul III approuve et signe. Dans un bref, daté du jour même de sa réception, il accorde tout en bloc. L'autorisation d'exercer la médecine est cependant assortie, entre autres, de l'interdiction d'utiliser le fer et le feu. Rabelais peut entrer à l'abbaye bénédictine de Saint-Maur-des-Fossés, au sud-est de Paris, sécularisé depuis 1533, faisant de ses moines des prêtres séculiers. C'est aussi à Saint-Maur-des-Fossés que Jean du Bellay s'était fait construire un magnifique château. C'est d'ailleurs Philibert Delorme, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui en avait assuré la construction. Ce château, je crois, a disparu. Jean du Bellay, abbé commendataire de cette abbaye, prend acte dans une lettre du 11 février 1536, de l'admission de Rabelais en son sein. Le lendemain, Rabelais nomme 2 procureurs pour accepter la sécularisation de Saint-Maur. Une prébende est ajoutée aux 8 déjà existantes au profit de Rabelais. Il faut bien vivre. À partir de cette date, Rabelais n'a donc plus Geoffroy d'Estissac comme supérieur, mais Jean du Bellay. Ce changement n'ayant sans doute pas eu l'aval de l'évêque de Maizet. À partir de cette date, aussi, on ne sait plus rien de ce deuxième séjour à Rome de Rabelais. Ce que l'on sait, c'est que du Bellay quitte Rome en secret pour voyager incognito, sans doute à la fin février. Il arrivera à Grenoble le 8 mars. Quant à Rabelais, il part de Rome à la mi-avril, traversant dangereusement le nord-ouest de l'Italie, de nouveau accablé par la guerre. Il faudra attendre 4 ans pour que Rabelais retourne de nouveau à Rome. Je vous ferai attendre un peu moins pour vous narrer ces nouvelles folâtreries, si tel est votre bon plaisir. Merci, mais je terminerai quand même en vous montrant ce document de Gustave Doré, dans ses illustrations qu'il avait faites de l'œuvre de Rabelais, Cela s'appelle les pèlerins mangés en salade. C'est vous dire le peu, la mauvaise opinion qu'avaient les pèlerins Rabelais, dont la romipéterie, je vous prie d'excuser ce néologisme, ne s'attardait pas sur les gens d'église et sur l'église en particulier. Voilà, j'en termine. Tout cela, je crois n'avoir pas été très long, mais tout cela m'a donné grand soif. Et je vais crier comme Gargantua le jour de sa naissance, sortant de l'oreille gauche de sa mère Gargamel, à boire, à boire, à boire. Je vous remercie d'avoir bien voulu m'écouter.
Sans réaction.
Qu'est-ce que j'ai enseigné à Montpellier, par exemple,
ben, la médecine. C'est la médecine, oui, à Montpellier, c'est de la médecine. Il a travaillé sur Hippocrate. Oui, pardon. Il a travaillé sur Hippocrate et Galien.
C'est le cursus qui est un peu curieux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Quoi. Et tout est inversé.
Mais on ne connaît pas davantage sa vie à Rome, je veux dire, sur le plan plus amusant, parce que souvent tu cherches...
Les documents sont très, très réduits. Hein. On a l'œuvre de Rabelais, et puis ce que les chercheurs ont bien voulu en tirer.
Les témoignages de Romains de l'époque, de princes...
Je ne connais pas de témoignages. Ce qui apparaît, c'est que Rabelais, pour l'époque, est un très très grand voyageur. Il a parcouru toute la France. Là, on en est à deux voyages en Italie. Si vous voulez bien, donc, je vous parlerai des deux suivants à Rome. Il fera aussi un séjour en Piémont. Il ira à Turin. Donc c'est déjà extrêmement... C'est exceptionnel pour l'époque. Mais nombre de témoignages... On ne sait si, par exemple, Marot ou quelques personnages, Budet, Dolé, avaient parlé de plus spécifiquement de Rabelais, peut-être aurions-nous des documents complémentaires, mais ça n'est pas le cas. Bon, ils citent parfois dans leur œuvre, Marot en particulier, Joachim du Bellay aussi, mais non, les documents sont assez réduits. Pas d'autres questions auxquelles je ne puisse répondre.
Oui, il ne dit rien des dames romaines, non ? C'est ce que je pense.
Oui, c'est ce que je... Ben, il ne dit rien de particulier des dames romaines. Dommage. Il n'était pourtant pas indifférent aux dames, puisque je vous en parlerai un petit peu la fois prochaine, dans un an. Et on a homologué trois enfants de Rabelais. Qui, je le rappelle, était moine d'abord, puis prêtre séculier. Ce n'est quand même pas mal. Et certains chercheurs ne désespèrent pas si un jour les archives de Vatican se sont ouvertes, de trouver peut-être traces d'autres enfants de notre sacré Rabelais. Il faut dire que les trois enfants que j'évoquais, là, deux vont être... le pape va permettre à Rabelais de les reconnaître. Non, ce sera très officiel.
C'est très courant quand même.
Ah, à l'époque, oui. Oui, on ne parle pas de ce que les papes, même les cardinaux, faisaient et des crimes accomplis en leur nom quand ce n'était pas eux-mêmes qui les commettaient.
À notre ami. On est très heureux de l'avoir entendu, c'était vraiment passionnant. On remercie infiniment, un grand bravo.